Alors, le sujet de ce matin, honnêtement, je ne me suis jamais posé la question comment m'entourer dans les épreuves, je dois le dire. Dans le ministère, c'est vrai que le pasteur est concerné surtout par ses brebis, par son troupeau. Et la question qui se pose surtout, c'est comment entourer les autres dans leurs épreuves. Et donc, c'était cette nuit-là, dans un moment d'insomnie, Seigneur m'a rappelé aussi, bien sûr, Ephésiens 6, l'armure du croyant, cette armure qu'on est censé porter pour se protéger dans le combat et les épreuves, les difficultés, eh bien, font partie de ce combat. Et donc le Seigneur m'a donné un petit acrostiche là à ce sujet, mais c'est surtout par rapport au ministère d'entourer les autres dans leurs épreuves. Après on va venir au sujet, mais c'est vrai que souvent le pasteur il est concerné par les brebis. Et donc je suis parti sur l'anagramme de vêtir, revêtir l'armure, nous dit Ephésiens 6. Donc vêtir, V comme visiter, c'est pas dans l'ordre, mais c'est vrai que quand on est concerné et qu'on veut entourer les autres, il faut les visiter. Eux, il faut éventuellement écrire, envoyer un petit mot, ça peut être un simple SMS ou un mail ou une lettre, une carte. T comme téléphoner, voilà, un petit coup de fil, c'est important. I comme intercéder, voilà, il faut prier, voilà. Prier pour les personnes. R comme réconforter avec la parole de Dieu, avec un verset. Vêtir. Et puis on peut mettre vêtira avec le A. Aider, ça peut être aider aussi. Parfois il faut s'investir matériellement, il faut peut-être aider dans un transport ou des petits travaux ou donner de son argent aussi. Donc moi j'y reviendrai un peu parce que c'était aussi le principe d'un jeu que j'avais conçu il y a une vingtaine d'années. Jeu de l'Alliance, j'en parlerai. Voilà. Principe de s'entraider les uns les autres. Bon, Ephésiens 6, de toute façon, je ne vais pas y revenir, mais voilà, c'est dans cet équipement, et bien sûr, il y a la foi, il y a la parole, il y a la prière. Donc, on va y revenir. Mais donc, j'ai cherché aussi dans la Bible comment s'entourer dans les épreuves, et j'ai cherché le mot entourer, parce que j'ai dit, est-ce que dans la Bible, il y a quelque chose au sujet, et ce qu'on trouve, ce sont des mentions de Dieu qui nous entoure déjà, c'est le Seigneur qui nous entoure. Regardez quelques versets, d'abord Deutéronome 32, verset 10, Dieu qui entoure son peuple Israël, je pourrais avoir un verre d'eau, Deutéronome 32, 10. Il a trouvé dans une région déserte, dans un chaos rempli d'effroyables hurlements, il l'a entouré, il a pris soin de lui, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Voilà, Seigneur qui a entouré son peuple. Et donc, la première façon de s'entourer, c'est avec le Seigneur, c'est lui qui nous entoure, qui prend soin de nous, il l'a fait pour Israël, il le fait pour nous. Regardez encore deux textes. Dans les psaumes, le psaume 5 et le verset 13. Psaume 5, verset 13. Qui nous dit, car tu bénis le juste éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Voilà, donc ce sont des promesses tout ça. Déjà, le Seigneur, voilà, c'est lui qui nous entoure de sa grâce comme d'un bouclier. On retrouve le bouclier de la foi peut-être aussi en parallèle. Et puis un autre verset, toujours dans les psaumes, le psaume 139 et verset 15. Psaume 139, verset 15, qui nous dit que tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Voilà. Voilà trois textes de l'Ancien Testament qui sont autant de promesses de Dieu qui lui-même nous entoure. Voilà. Et ça, la meilleure protection. Alors, comment s'entourer dans les épreuves? Quelles épreuves, me direz-vous, hein? Notre frère a dit que nous ne connaissons pas ces choses, hélas. Ça peut être la maladie, ça peut être le deuil, les finances, les problèmes, les conflits dans l'Église, parfois de l'opposition, de la persécution, hein, même si ici nous ne connaissons pas vraiment cela, mais il peut y avoir de l'hostilité. Et donc, quand j'ai réfléchi à cela, j'étais obligé de parcourir ma vie et de revoir un peu, dans le courant de ma vie chrétienne et du ministère, comment je me suis entouré et comment nous avons traversé ces moments. Et j'ai fait une petite liste là d'idées, hein, ça peut être aussi complété. D'abord, une chose très importante, c'est l'information. Pour s'entourer dans l'épreuve, on a besoin d'informer. Dès le début du ministère, j'ai pris à cœur d'envoyer des lettres de nouvelles régulières, parce qu'on a besoin d'infos pour prier. Et c'était Paul qui me disait, il faut que tu dises aussi s'il y a des choses qui ont fait défaut, qui ont manqué. Et c'est vrai que parfois, je regrette le manque d'infos de la part des autres frères et sœurs. Souvent, je prie pour vous, mais je ne sais pas quoi prier. Je veux dire, ça reste général, c'est pas précis. Et j'avais beaucoup apprécié dans les années 2000, lorsque dans notre alliance, nous avions institué un jeûne et prière mensuel. Et tous les mois, on envoyait des sujets de prière de chaque église et on passait du temps avec les chrétiens à jeûner et à prier les uns pour les autres. Et ça a été un moment vraiment qui nous a cimentés et vraiment on s'est entourés les uns les autres, n'est-ce pas, dans la prière. Je crois que c'est important. Donc ça, c'est un regret, oui. Pas assez d'infos. Pas assez d'infos, pas assez de retours non plus de nos mails et de nos lettres. Parfois, c'est vrai, on envoie des nouvelles et on ne sait pas si vous les recevez. Et j'apprécie juste parfois le frère qui dit « Bien reçu, je vais prier. » Voilà, c'est tout. Hein. Message reçu. Hein. C'est important ça aussi, ce petit retour. Hein. Aussi souvent, vous savez, on s'est salué et la formule traditionnelle, c'est comment ça va? Comment vas-tu? Ça va? Etc. Hein. Voilà, c'est formule un peu passe-partout. Hein. Et c'est vrai que ce qui m'a touché aussi, c'est quand, justement, dans les moments d'épreuve, de difficulté, surtout avec la santé de mon épouse, la première question, c'est comment va René? Comment va ton épouse? Et puis, certains qui rajoutent, et toi, comment vas-tu? Et toi, comment vas-tu? Et c'est vrai que parfois, enfin, je me pose un peu la question, c'est pas moi qui suis malade, mais voilà, c'est important aussi hein, de poser cette question. Voilà, parce que le conjoint, le mari, le pasteur aussi, hein, tout simplement, le pasteur, il peut ne pas être bien, il peut souffrir. Et comme disait notre frère, il y a une pudeur, je crois aussi cette image du pastorat qu'on a pu donner ou qu'ont développé nos chrétiens, c'est que le pasteur, de toute façon, lui, là. Il n'y a jamais de problème. Le pasteur, il est hors d'atteinte, n'est-ce pas? Il doit toujours être top, n'est-ce pas? Pourtant, nous ne sommes pas épargnés. Hein. Et parfois, c'est difficile de partager. Le pasteur qui va dire, mon frère, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, prie pour moi. Peut-être, comme disait, il y a de l'orgueil. Ou voilà, c'est difficile de descendre, ça, c'est dire, écoute, voilà, je ne suis pas différent. Lorsque mon épouse a été malade, son premier cancer, premier myélome en 2007, je sais qu'elle aime beaucoup les cartes de Noël. Et donc, voilà, j'ai envoyé un courrier à tous mes contacts. J'ai dit, écoutez, si vous voulez encourager René, envoyez-lui une carte de Noël, carte de vœux pour l'encourager. Et donc, ça a marché, hein, on a commencé à recevoir... 1, 2, 3, 4. Et après un moment, elle était un peu étonnée parce qu'elle dit comment c'est que je reçois tant de cartes. Hein, voilà, elle en avait partout. Et puis, vous savez ce qu'on fait, on les affiche. Hein. Mais voilà, pour elle, ça a été un grand encouragement. Voilà, ça l'a entourée. Voilà, elle était entourée de cartes partout. Hein. Elle était L'an dernier, quand elle est rentrée, 40 jours d'hôpital, on avait reçu des cartes aussi, hein, des mots. Et donc là, j'avais tapissé la chambre, l'armoire et les murs de cartes avec des textes bibliques. Et donc là, dans son lit, elle pouvait se tourner partout et voir qu'elle était entourée, voilà, entourée de versets bibliques. J'ai fait la même chose pour moi quand j'étais seul là, pendant ces semaines. Je collectionne les cartes postales et sur certaines cartes, il y a des versets. Donc j'ai fouillé, j'ai cherché, j'ai sorti toutes mes cartes et je les ai mises partout dans l'appartement. Il y en avait devant l'évier, devant le lavabo, il y en avait dans les toilettes, il y en avait partout où je me déplaçais. Ce qui fait que chaque fois où je me tourne, j'étais entouré de la parole de Dieu, les amis. Et là, façon pratique, comment s'entourer? Ben, on a besoin de partout lire la parole de Dieu, n'est-ce pas? Lire la parole de Dieu, savoir que le Seigneur a placé là plein de promesses pour nous, n'est-ce pas? On va lire quelques versets justement à ce sujet, au sujet de l'information, de voir que Paul lui-même attachait beaucoup d'importance à l'information. Regardez Colossiens chapitre 1 et versets 3 et 4. Colossiens chapitre 1, versets 3 et 4, nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés, voilà, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints. Déjà à l'époque, hein, information, il faut être informé. S'il n'y a pas d'information, comment voulez-vous que l'on prie pour vous? Donc c'était en 96, j'avais conçu un jeu, on avait appelé ça le jeu de l'Alliance, c'est un jeu coopératif où différentes églises étaient représentées et l'idée c'est qu'une église organisait une campagne d'évangélisation et toutes les autres églises devaient aider en fonction des cartes qu'elles avaient, etc. Et donc soit on pouvait envoyer un équipier, envoyer un évangéliste, mais on pouvait aussi prier, on pouvait faire un don, on pouvait... Donner un coup de fil à l'époque, hein, c'était, il n'y avait pas encore les portables, mais hein, aujourd'hui c'est peut-être un SMS. Mais c'était l'idée, voilà, de vraiment être entouré. Hein, voilà, on fait partie d'une alliance, on fait partie d'une communion baptiste. C'est important de s'entourer aussi les uns les autres. Hein, voilà. Comment est-ce que je peux aider? Hein, comment est-ce que je peux aider? Comment est-ce que je peux entourer? Je crois que la CEBI, elle a un rôle à jouer là. Je sais que la CEBI c'est une communion essentiellement, mais ça peut être plus qu'une communion. Hein. Plus qu'une communion. En 1983, nous avions recensé, nous avions fait un inventaire des dons et du matériel dans les églises de la CEBI. C'était avec André Barnes, je crois, qu'on avait fait ça. Donc l'idée, c'était, voilà, si vous avez un don particulier, évangéliste, enseignant, etc., si vous êtes prêt à le mettre au service des autres églises, eh bien, voilà, partagez-le. Si vous avez du matériel, des traités, je ne sais pas, des tentes d'évangélisation, etc. Donc c'est l'idée, voilà, de s'entourer les uns les autres aussi dans le besoin, de se dire, voilà, je sais où me tourner dans le besoin. Alors, deuxième chose maintenant, après l'information, c'est la création d'un réseau d'amis. La création d'un réseau d'amis. Récemment, j'ai cherché avec ma fille un travail pour elle dans le monde évangélique sur Internet. Et ça, ce qui m'a frappé, c'est que dans beaucoup de cas, dans un travail souvent aspect missionnaire, il disait vous devez trouver votre propre soutien. Vous devez créer votre réseau d'amis, votre réseau de soutien. Créez votre réseau de soutien. Et après 40 ans, à plein temps, je peux dire que le réseau existe. Grâce à Dieu, hein, c'est vrai que, avec l'aide du Seigneur, on a réussi à créer un réseau de supporteurs, n'est-ce pas? De soutien, de personnes qui prient, ou qui soutiennent notre ministère. Et c'est vrai que je peux dire que chaque fois que nous avons été dans le besoin, parce que nous avons souvent connu des épreuves, que ce soit matérielles ou spirituelles, un besoin de prière, eh bien, ce réseau a répondu présent. Et j'aimerais remercier ici tous ceux qui en font partie, hein, qui ont toujours répondu quand il y avait un besoin, hein, pour nous entourer. Dans la Bible, David, il n'avait pas un réseau vraiment, mais il avait au moins un ami bien connu, hein, qui s'appelait Jonathan. Et on va regarder dans 1 Samuel chapitre 19, verset 18. 1 Samuel 19, 18. Donc ici, c'est en fait là, je ne sais pas le verset que je voulais voir, on le verra après. Ça, c'est David qui va voir Samuel, mais on va voir plutôt Jonathan d'abord, excusez-moi. 1 Samuel 23, on va aller d'abord au 23, 16, sauf si j'ai interverti. 23, 16, oui, c'est ça. David, hein, qui est vraiment dans l'épreuve, hein. Il est pourchassé par Saül, le père de Jonathan, et là... il est dans la forêt là. Et ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva pour aller trouver David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit: n'aie pas peur, car mon père Saül ne parviendra pas à t'attraper. Tu régneras sur Israël et moi je serai ton bras droit. Mon père Saül le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. David resta dans la forêt et Jonathan retourna chez lui. Voilà un ami qui a pris la peine de se déplacer. J'ai parlé tout à l'heure de visiter le pasteur, souvent, ben voilà, c'est son ministère, ministère de visite, mais parfois c'est le pasteur qui a besoin d'être visité. C'est le missionnaire qui a besoin d'être visité. Est-ce que vous avez déjà pris le temps d'aller visiter un frère, un missionnaire qui est seul, qui est dans le besoin? Cette semaine, je suis allé voir un couple missionnaire âgé qui est assez isolé et qui m'a dit: on se sent abandonné. Parfois, on s'oublie les uns les autres. Voilà, on est tellement dans le ministère, voilà, le troupeau, mais on a besoin de penser à nos frères et sœurs qui sont dans le ministère. Parfois, ils ont besoin d'une visite aussi. Et Jonathan l'avait compris, lui qui est allé voir David, pour le fortifier dans la foi. Créer un réseau d'amis qui va nous encourager, qui va prier pour nous. Pourquoi ? Eh bien, parce que, vous savez, parfois dans l'épreuve, il faut l'avouer, on est trop faible pour prier même. Je peux confesser, parfois on est tellement dans les soucis, dans l'épreuve, que c'est difficile de prier. Difficile de lire la Bible même. Mon épouse, vous savez, quand elle était malade, elle ne pouvait pas lire. Hein. Elle ne pouvait pas lire la Bible, il fallait que je lise la Bible. Hein. Et les moments, nos pensées sont tellement... s'agitent en foule, comme dit la Bible, hein, comme dit le Seigneur, mais donc c'est pas facile toujours. Hein. Et c'est là qu'on a besoin des prières des autres. N'hésitons pas à demander, à réclamer les prières des frères et sœurs. Paul ne dit-il pas d'ailleurs dans 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 15, hein, 2 Corinthiens 4 verset 15, oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance ou les actions de grâce d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. C'est humain, c'est logique de penser que c'est beaucoup pris, n'est-ce pas? Voilà, on a plus de possibilités d'être entendu, d'être écouté, et puis en même temps, ça sera l'occasion de beaucoup plus de personnes qui rendront grâce au Seigneur pour l'exaucement. Un petit peu comme aussi, voilà, Moïse a eu besoin d'être soutenu à un moment donné. Hein, c'est l'histoire de Moïse qui, pendant que Josué combat sur le terrain, eh bien, il y a Hur et Aaron qui soutiennent ses bras. Donc, on pense que c'est le bras levé, là, c'est la prière, hein, de Moïse. Voilà. Troisième point, la famille. L'importance de la famille. La famille peut être un soutien, même si elle n'est pas chrétienne. Les liens de la chair sont réels. Et parfois, on a besoin de la famille, selon la chair aussi. Voilà. Quand nous avons déménagé en 2006, après le deuil de notre belle-fille Vanessa, nous avions vraiment besoin de réconfort. Nous l'avons enterré, je crois, le mercredi, on a déménagé le jeudi. Et quand on est arrivé à Pujo, ma famille avait, nous attendait, ils avaient préparé un repas. Un repas, c'était au mois de juin, c'était sous le tilleul. Et à ce moment, le tilleul, il embaume, vous savez. Et vous savez que le parfum du tilleul est apaisant. Hein, et c'est vrai que, voilà, à la fois le parfum du tilleul et l'accueil de ma famille a été vraiment un baume sur notre cœur ce jour-là. Et c'est important. Hein. La famille. La famille aussi parce que, vous savez, quand on est éprouvé, quand on est malade en particulier, on n'a pas envie, il faut le dire, on n'a pas envie d'être vu malade parfois. On n'a pas envie d'être vu déprimé, d'être vu amaigri, d'être vu souffrant. On a une gêne, hein. On n'a pas envie de voir du monde, tout simplement. Mon épouse, soit, me disait, bon, de toute façon, quand elle était en soins intensifs, elle pouvait voir personne d'autre que la famille, hein. Et c'est vrai que, bon, j'ai cherché dans la Bible, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a quelques exemples de membres de la famille ou de familles qui ont entouré un proche dans l'épreuve? Je n'ai pas trouvé beaucoup. J'ai pensé à Marie qui est allée jusqu'au bout, hein, à la croix, qui était là, peut-être pour soutenir son fils. Hein. Elle ne savait pas tout ce que ça représentait, mais je ne sais pas, peut-être vous pensez à quelqu'un d'autre, mais il n'y a pas beaucoup d'exemples. Hein. Pourtant, je crois que c'est important, hein. Ça peut être les voisins aussi. Vous savez, les voisins, parfois, ils peuvent être un soutien, même s'ils ne sont pas chrétiens. Ma femme est toujours très gentille avec les voisins. Chaque année, à Noël, elle leur offre des petits gâteaux de Noël. Donc, voilà, elle se crée un réseau d'amis, hein, dans l'immeuble où elle habite. Et quand l'épreuve vient ensuite, eh bien, les voisins répondent présents. Ils disent, ils sont concernés. Voilà. Ils viennent frapper ou sonner à la porte et prendre des nouvelles, porter des fleurs, porter des gâteries. Et tout ça, c'est un réconfort aussi. Hein. C'est important d'être, voilà, en bon terme avec les voisins, d'être bien entouré aussi, parce qu'on peut en avoir besoin. Il y a des moments quand on est seul, quand on est éprouvé. Le Seigneur peut les utiliser aussi. Hein. Ne jamais refuser l'aide. Voilà, ça aussi. C'est ce que j'ai appris aussi dans ces moments quand les femmes de l'église me proposaient de faire un plat pour ou de venir faire le ménage. Voilà, faut pas refuser. Faut pas qu'il y ait de l'orgueil. Il faut être disposé à recevoir. Quatrièmement, bien sûr, ça doit venir avant toute chose. Je l'ai déjà évoqué. C'est la parole de Dieu. Hein. C'est la Bible qui est notre meilleur réconfort. C'était avant d'entrer à l'Institut en 1977, je me suis retrouvé au chômage et c'était vraiment un temps d'épreuve parce que moi j'avais fait comme des études universitaires et je me retrouvais au chômage et les premiers boulots que j'ai dû faire c'était manutention, livreur en blanchisserie, c'était humiliant quelque part, c'est vrai, parce que c'est pas facile, hein, je veux dire, d'avoir fait des études universitaires et puis après le seul boulot qu'on fait c'est... Voilà, manuel, c'était pas facile. Et dans ces moments-là, j'ai beaucoup lu la Bible. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, vous connaissez. Hein. Ah oui, non, mais bon, c'était approprié parce que voilà, la première partie, hein, c'est sombre. À un moment donné, j'ai coloré ma Bible, vous savez, par sujet, hein, les promesses, le péché, le retour de Christ. Et là. Lamentation 3, première partie, c'est tout noir. Hein. Mais après, ça prend de la couleur. Hein. Mais les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Hein. Elles se renouvellent chaque matin. Donc voilà, la parole de Dieu a été vraiment un réconfort. Hein. Les psaumes de David, voilà, c'est du vécu tout ça. Et donc, parfois, comment s'entourer? Eh bien, parfois, on a besoin d'être seul, tout simplement. D'être seul avec le Seigneur, avec la parole de Dieu. Hein. C'est ce que dit le Seigneur dans Matthieu 6, verset 3. Hein. Matthieu 6, verset 3, quand il nous dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Hein. Voilà. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ouvertement. Voilà. Donc, et des moments, s'entourer, c'est pas d'avoir plein de monde. Hein. S'entourer, c'est se mettre dans la présence du Seigneur avec sa parole, voilà, s'imprégner et prier, et, jeûner peut-être, jeûner. Venez aller à l'écart et se reposer un peu, comme a dit le Seigneur à ses disciples. Prendre du temps pour lire. Un endroit que j'ai beaucoup apprécié dans le ministère, c'est entre pierres, certains connaissent. Hein. Combien souvent c'était pour nous vraiment un temps pour se ressourcer. À Entrepierre, on était entouré de la nature. Hein. Vous connaissez Entrepierre, hein, ce lieu pour les pasteurs et les missionnaires. Hein. Mais aussi, pour nous, c'était la bibliothèque d'Entrepierre. On se régalait avec René d'aller là et on prenait plein de livres là, et on lisait. Voilà. Des bons livres chrétiens, parce que c'est la parole de Dieu, mais aussi des bons livres chrétiens, hein, qui peuvent nous faire du bien, nous parler. L'été 2007, quand mon épouse a été diagnostiquée avec le cancer, j'ai trouvé un livre dans une librairie, je pense que c'était la FNAC, je ne sais pas quoi, un petit livre de Madame Guyon. Vous connaissez Madame Guyon, hein ? Elle est plus connue aux États-Unis qu'en France, hein, un peu mystique, mais c'était un livre qui s'appelle Le Moyen Court. C'est-à-dire le moyen court pour atteindre la communion avec le Seigneur. Et ça m'a parlé, elle avait cette formule, une chose très évidente, peut-être pour vous, mais c'est l'idée que il y a plein de choses dans notre vie qui ne dépendent pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. On peut faire tout ce qu'on veut, mais ça ne dépend pas de nous. La santé ne dépend pas toujours de nous. Même la réaction des chrétiens dans notre ministère, ça ne dépend pas toujours de nous. Hein, je veux dire, on ne peut pas provoquer l'engagement, par exemple. Et donc, son idée, c'était, voilà, il faut tout s'abandonner au Seigneur entièrement. Voilà. S'abandonner au Seigneur et comprendre qu'il y a tellement de choses qui ne dépendent pas de nous. Voilà. Le laisser prendre tout cela en main. En 91, quand nous avons considéré de quitter Limoges pour commencer une église à Nice, j'ai lu un commentaire de Martin Lloyd-Jones sur Habacuc, qu'on pourrait traduire de la peur à la foi, de la crainte à la foi. Très bon commentaire, je vous recommande. Et l'idée, c'était quand la raison s'oppose à la foi. Parce que quand nous avons partager ce projet de partir à Nice, plusieurs chrétiens nous ont dit « Vous êtes fous, vous n'êtes pas sages, ce n'est pas raisonnable. Nice, c'est beaucoup trop cher, beaucoup trop difficile. » Et parfois, on nous a découragés de partir. Donc, c'est vrai que là, on commençait à raisonner, dire « Peut-être ils ont raison, peut-être qu'il ne faut pas le faire. » Et donc, c'était un temps d'épreuve, parce que « Voilà, Seigneur, quelle est ta volonté ?» Mais voilà, le juste vivra par la foi, le juste vivra par sa foi, et c'est par la foi que nous sommes partis en comptant sur le Seigneur. Ça n'a pas toujours été facile, les épreuves n'ont pas été épargnées sur le plan financier, sur le plan même du ministère, hein, de l'évangélisation, l'implantation d'église, mais voilà, aujourd'hui il y a une église, hein, qui est implantée là-bas par la grâce du Seigneur. Autre chose qui m'aide beaucoup pour m'entourer, c'est le fait d'avoir un journal personnel. J'ai commencé très tôt à avoir un journal, j'avais 17 ans, j'ai continué quand je suis devenu chrétien à 20 ans. Le journal personnel est devenu un journal de prière aussi, voilà, où je partage ce que je vis, mais aussi mes requêtes, et j'ai conservé tous ces journaux. Et dans les moments de besoin, d'épreuves par exemple, eh bien, il m'arrive de relire, d'aller chercher dans ces journaux comment j'ai traversé ces épreuves avec le Seigneur. Et c'est précieux parce qu'on oublie, hein, vous savez. Ces jours-ci, j'ai revu des chrétiens qui étaient à Limoges avec moi dans le ministère et on partageait des souvenirs. Ce qui m'a frappé, c'est que il y avait des détails que je partageais avec eux qu'ils avaient oubliés. Et il y avait des détails qu'ils partageaient avec moi que j'avais oubliés. Hein, des choses qui nous a marqués les uns les autres. Et donc, là, si on écrit les choses, ben, c'est, on peut les retrouver. Et souvent, voilà, ça m'encourage de relire cela, comme vous reliriez une biographie, hein, finalement. Hein, et dire, voilà, ah oui, c'est vrai, le Seigneur, il a pourvu, là. Voilà comment il est intervenu. Voilà comment on a procédé. Parce qu'avec le recul, hein, on peut mieux analyser les choses. Dieu nous a délivrés. Cinquièmement, ça prolonge un peu cela, mais parfois, on a des moments où on a besoin de recevoir dans le ministère, d'être nourri. On est toujours en train de donner. On donne tout le temps, les pasteurs, tout le temps. Comme je dis, dimanche est passé, lundi, on doit déjà penser, bon, voilà, étude biblique, prédication, visite, bulletin, je ne sais pas. Il faut, déjà, on est en travail, n'est-ce pas, pour donner. Et parfois, on a besoin de recevoir. Alors, on peut recevoir, bien sûr, la parole de Dieu, bon livre chrétien. Mais parfois, il faut s'arrêter. Écouter d'autres prédicateurs, je sais que certains le font, ils écoutent des prédications, hein. Un autre enseignement. J'ai été pasteur pendant 2 ans à Maubourguet, petite ville près de mon village, et c'était une période où justement, je me suis arrêté un peu. Et à un moment donné, j'ai assisté à un séminaire pour pasteurs avec, je sais pas comment le qualifier, Gary Collins. Je ne sais pas si vous dites quelque chose. Hein. Voilà. Et c'était intéressant parce que le sujet, c'était pendant plusieurs jours, c'était comment traverser une période de changement. Comment traverser une période de changement à partir du livre de Néhémie. Et là, pendant 3 jours, voilà, c'était un enseignement sur comment traverser, comment s'entourer dans des moments de changement. Et c'est ce que nous vivions. On a changé de ville, de ministère. On venait de traverser le deuil. Et voilà, ça a été bienfaisant. Voilà, pendant un moment de s'asseoir. Et de recevoir. Donc, il ne faut pas hésiter, hein, de profiter des occasions d'être renouvelé pour recevoir, pour être nourri. Sixièmement, comment s'entourer dans l'Église aussi. Ça m'a pris un peu de temps de comprendre que le travail avec un conseil est très important dans une Église. D'être entouré de conseillers. Le but des conseillers, c'est de conseiller, n'est-ce pas? C'est pas juste pour valider ce que le pasteur a décidé. C'est, voilà. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que voilà, non seulement ils conseillent, mais ça peut jouer un rôle de protection. Un conseil peut protéger le pasteur, hein, parce que parfois, la présentation d'un projet directement aux membres peut être mal perçue ou passer difficilement. Et voilà, le conseil peut filtrer les choses et ça peut être dans les deux sens. Hein. Ça a été une bonne chose. Hein. Ça n'a pas toujours fonctionné parfaitement, mais ça a été précieux. Hein. Le salut est dans le grand nombre de conseillers, les proverbes, c'est important. Hein. Vraiment de travailler avec en étant entouré là aussi, hein. S'entourer de diacres, de diaconesses éventuellement qui soient. Qui soit vraiment spirituel et qui soit consacré. Ça peut être précieux aussi dans une église ou en dehors d'avoir un médecin chrétien. Dans notre église, on a un médecin chrétien et c'est très utile parce que parfois, on peut le consulter aussi pour avoir des avis, hein, par rapport à des personnes qui sont souffrantes ou voilà, un médecin chrétien, peut-être un psychologue chrétien aussi. Hein. Une assistance sociale chrétienne, voilà. Parce que honnêtement, il faut avouer qu'il y a des situations qui nous dépassent, hein, qui nous dépassent, et on n'est pas compétent nous sur le plan médical, hein, ou psychique toujours. Hein. Il fut un temps où je pensais que tout ne relevait que du spirituel, mais parfois il y a aussi on vit dans un corps, hein, un corps de chair, et j'ai appris dans la souffrance que voilà. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous et que on peut prier, bien sûr, on peut conseiller, on peut encourager, consoler, visiter, mais après l'aspect médical, hein, psychique. Hein. Au-delà de l'Église, je me demande en quelle mesure, au niveau de la CEBI ou de nos alliances d'Église, il ne serait pas intéressant d'avoir des pasteurs référents. C'est-à-dire, vous savez, parfois dans le ministère, surtout quand vous êtes débutant, on ne sait pas toujours vers qui se tourner. Hein. Il n'y a pas toujours une structure dans nos missions ou dans nos églises appropriées à ce niveau-là. On est un peu lâché, et voilà. Et parfois, j'ai eu besoin de demander l'avis. Alors, souvent, je fais tourner à mon frère Tim. Tim, il le sait. À plusieurs reprises, je l'appelais dans les moments difficiles d'épreuve pour lui dire « Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu me conseilles ?» Même une fois, il est venu comme médiateur. Voilà, on a besoin de ce ministère aussi dans nos églises, d'être entouré, de savoir vers qui me tourner après le Seigneur. Parfois, on ne peut pas vraiment se tourner vers le conseil de l'Église non plus. Ça dépasse, n'est-ce pas? Et c'est important, et peut-être on doit y réfléchir à cela, hein, de mettre en place un ministère de référent, voilà, de pasteur qui pourrait tourner dans les églises. Je pensais un peu d'ailleurs ce que tu fais, Tim, hein, parfois aussi, hein, et d'autres. Mais voilà, quelque chose qui soit validé, qui soit reconnu, qui soit un peu officiel, on sait, voilà, on peut se tourner vers lui ou vers elle. Ça peut être aussi l'épouse du pasteur qui a besoin de parler. Septièmement, parfois il faut partir. Un peu. Parfois il faut partir un peu. Il faut aller voir quelqu'un. Hein. Parfois, si les personnes ne viennent pas vers vous, il faut aller vers elles. Alors, parfois on peut aller changer d'air comme entre pierres. Hein. Mais il faut partir. Vous savez, c'était en 2012. Mon épouse était dans l'attente de prélèvement de cellules souches. Hein, mon frère Jean-Jacques sait de quoi je veux parler. Hein. Et parfois ça ne marche pas. C'est-à-dire parfois, ça prend du temps, des semaines, alors on va à l'hôpital et puis non, c'est pas bon, il faut revenir. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus, je savais que rien ne se passerait, j'ai dit bon, je pars, voilà, je pars, je suis parti, bon, 3 jours, hein, c'est juste, je suis parti chez ma fille à Béziers, mais j'avais besoin d'un break, d'une coupure. Hein. Et je pense à David qui lui est parti à un moment donné aussi, bon, il était pourchassé, il n'a pas trop le choix, vous me direz. Où est-ce qu'il est allé, David? Il est allé voir qui? Il est allé voir Samuel. Hein. Il est allé chez le sacrificateur aussi. Hein. Mais il est allé chez Samuel, c'est intéressant. 1 Samuel 19, 18, c'est le verset que j'ai évoqué tout à l'heure. 1 Samuel 19, 18. C'est ainsi que David prit la fuite et put s'échapper. Il se rendit vers Samuel à Rama. Et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Et voilà, c'est ça. On a besoin peut-être d'aller vers un frère et de vider notre cœur, de dire voilà tout ce qu'on m'a fait, voilà tout ce que je vis, tout ce que je subis. C'est une confession, un partage. Puis il alla avec Samuel habiter à Najoth. C'est intéressant, c'est-à-dire il va rester quelque temps avec Samuel. Il avait besoin voilà, de son aîné, hein, son mentor, en quelque sorte, voilà, pour. Parler, partager, être conseillé. Hein. Partir un petit peu, changer d'air, changer d'environnement. Vous savez, quand vous avez passé des semaines dans une chambre d'hôpital au mur blanc, ça vous fait plaisir de voir des fleurs. De voir de. Hein? De voir de la verdure. Mon épouse, dès qu'elle peut, voilà, je l'amène dans un jardin pour voir des roses, des fleurs, hein, voir la nature. C'est important. Pourtant, on a besoin de ça. Plus que les cartes postales. Hein? Voilà. On a besoin parfois de partir un petit peu. Voilà, j'aimerais juste relire ces deux versets hein, qui nous disent que le Seigneur nous entoure de sa grâce comme d'un bouclier, qu'il nous entoure par derrière et par devant et qu'il met sa main sur nous. Vous avez sûrement plein d'autres idées ou d'expériences par rapport au fait de s'entourer dans les épreuves, mais voilà, c'est ce que j'avais à cœur de partager avec vous, c'est du vécu. Hein. Et que le Seigneur puisse voilà, donner, de tirer profit de ces textes, de ces idées, pour les moments difficiles que nous pouvons traverser, que ce soit la santé, que ce soit les finances, que ce soit dans le ministère, les combats, les luttes. Dans l'évangélisation, peut-être de l'hostilité. Hein. Prions. Seigneur Dieu, nous te remercions parce que je peux témoigner, et nous pouvons témoigner tous certainement que c'est vrai, c'est toi qui nous entoure, Seigneur. Nous ne voyons pas toujours ta personne, mais te voyons à l'œuvre à travers les frères et sœurs, à travers les circonstances, à travers tout ce que tu opères dans nos vies et autour de nous et en nous, Seigneur, pour nous porter, Seigneur, sur tes mains. Non seulement tu mets ta main sur nous, mais tu mets ta main sous nous aussi pour nous porter, hein, Seigneur, dans les moments difficiles. Tu l'as fait, Seigneur, je t'en rends grâce et nous avons tous confiance que tu continueras à le faire. Seigneur, renouvelle-nous, inspire-nous et que ta grâce s'étende, Seigneur, sur tous nos frères et sœurs dans le ministère, dans la mission, ici en France en particulier. Au nom de Jésus-Christ. Amen.